Bonjour, bonjour à tous. On va donc lancer la journée du Labo Junior Sciences Dessinées qui aura pour thème Nature et Bande Dessinée. Donc cette thématique, on va l'aborder à travers différentes interventions. L'intervention de Julie Legal, l'intervention de Paul Arnoux sur la forêt et l'intervention de Frédéric Ducarme sur la nature de Véronique Servat. Pardon, j'ai oublié aussi. Pardon. Et de Véronique Servat. Et l'intervention de Frédéric Ducarme, il me semble, sur Dragon Ball. En tout cas, cet après-midi, on aura Étienne Dabodeau qui interviendra et avec qui on aura une petite table ronde et un entretien un peu poussé sur les thèmes de la nature, justement, et de la présence de l'environnement dans son œuvre. Et cette journée s'inscrit dans un cycle de journées d'études du laboratoire junior qui a vu depuis avril 2013 plusieurs thèmes abordés. Donc on a eu le vulgariser en bande dessinée, la violence en bande dessinée, la ville en bande dessinée. Plusieurs journées de prévues. Le 20 mai, avec en invité Lévis Trondheim, on va aborder la thématique du masque et de l'identité et des identités en bande dessinée. Suivi le lendemain, en collaboration avec le laboratoire Junior Génère, d'une journée sur genre et bande dessinée. Donc en fait, ça fera un fil conducteur sur l'identité et l'identité en train de se faire sur deux jours. Puis, en juin, on a deux journées de prévues sur le Moyen-Âge en bande dessinée, le 12, merci Tristan, et sur enseignement et bande dessinée, le 16, c'est ça. J'en oublie. Et en octobre, on aura le grand colloque du laboratoire junior, notamment pour l'instant en présence de Frédéric Boilet, si tout cela se confirme, et peut-être d'autres invités comme Matotti. On attend les réponses avec impatience. Donc voilà, je vais laisser la parole à Bénédicte pour aborder les thèmes de la journée.
Donc on va pas faire d'intro, on a commencé un peu tard pour des raisons matérielles. Donc pour présenter ceux qui ne connaissent pas Julie, qui sont pas nombreux dans la salle, Julie Legal est maître de conférence à l'ENS, donc ici, et elle va aujourd'hui. Elle a répondu à notre demande. On a un petit peu insisté pour qu'elle fasse cette communication dans un emploi du temps très chargé, pour nous parler d'une approche du monde rural par la bande dessinée, donc une approche comparative sur plusieurs bandes dessinées. Je te laisse la parole, Julie.
Ok, merci Bénédicte. Non, bonjour à tous. Déjà, je commence par vous remercier de m'avoir invité à participer. Donc Bénédicte m'avait dit qu'elle souhaitait quelque chose autour de l'agriculture, du développement rural, du développement durable. Donc je suis pas du tout spécialiste de la BD, je suis simplement amatrice éclairée, on va dire. Mais par contre, je connais un petit peu le monde rural, pas forcément le monde rural français qui est décrit dans les BD, mais je vais faire avec ce socle de connaissances de géographe un petit peu agricole, un petit peu ruraliste, en m'excusant par avance de faire quelque chose de très impoli, qui est de présenter puis de partir juste après, qui est très impoli puis qui est un peu inconfortable, parce que du coup j'entendrai pas non plus l'ensemble de la journée. Mais effectivement, j'ai des impératifs auprès d'un autre public aujourd'hui à 11h au collège des Minguettes, donc je devrais filer assez vite après. Alors, donc j'avais vu que c'était Étienne Dabodeau qui était l'invité, et évidemment, quand on pense à Étienne Dabodeau, la première BD qui me venait en tête après Les Ignorants, qui est parue récemment, c'était la BD Rurale, qui est l'une des premières BD qu'il a fait connaître. Et donc, Étienne Dabodeau, il écrit Rural avec un point d'exclamation, donc en mode revendicatif, en mode défensif de cet espace. Et puis, comme vous pouvez le voir sur la couverture, la couverture de la bande dessinée est marquée du sceau de José Bové, et en plus est préfacée par José Bové. Donc c'est une BD qui est soutenue par la Confédération paysanne, et une histoire donc qui raconte les galères d'un GAEC et puis des voisins de ce GAEC face à la construction de l'autoroute A87. Donc c'est une BD qui d'emblée nous dit quelque chose d'un peu revendicatif, militant sur le monde rural. Et puis dans ce cadre aussi de la journée présentée comme une journée sur la nature en BD, qui à mon avis s'inscrit aussi en réponse face à la journée sur la ville. Donc on peut imaginer que peut-être que les personnes du labo là, ont voulu montrer un peu des oppositions dans les manières de regarder l'espace, et peut-être ont souhaité nous amener sur le terrain éventuellement écologique, en tout cas de la défense d'une certaine nature. Donc je me suis dit que peut-être que le monde rural mis en BD, eh bien ça appelait forcément une approche militante. Et ce qu'il y avait à montrer et à traiter invitait forcément à une certaine défense du phénomène. Bon, en réalité, je pense que c'est pas si simple. Et par rapport à mon titre initial, eh bien, je me suis décidée à ajouter un point d'interrogation à partir de lecture du corpus et puis aussi d'éléments de définition. Donc le rural, ce sont globalement les campagnes dans toute leur complexité qui sont pensées notamment en opposition par rapport à l'urbain, au sens où il y a des paysages particuliers, des paysages plus naturels qu'en ville, des paysages aussi qui montrent des densités plus faibles. Enfin, on voit, ça dépendrait des espaces du monde. Le rural, c'est aussi un type d'habitat particulier, sont aussi des activités, des économies particulières, qui ne se confondent pas avec l'agricole, puisqu'il y a un certain nombre d'activités de plus en plus diversifiées au sein du monde rural, et aujourd'hui l'activité agricole n'est pas l'activité dominante dans le monde rural. Et puis les campagnes, le rural, eh bien, ça véhicule aussi un certain nombre de représentations qui diffèrent également des représentations de la ville. L'espace rural, c'est un espace qui est défini aussi de manière statistique, donc en France, pour faire vite, donc, on est en ville dès qu'il y a plus de 2000 habitants, et autour de la ville, il peut y avoir les couronnes périurbaines donc, qui envoient leurs habitants travailler dans la ville. Et en gros, tout ce qui n'est pas couronne périurbaine et puis centre-ville, eh bien, c'est l'espace rural. Donc ça représente quand même une superficie très importante en France. Et néanmoins, dans cette superficie très importante, eh bien, on voit une diversité des activités qui va aussi se remarquer dans la diversité de ce qu'on voit dans le monde rural en BD. Je voulais aussi souligner dans ces éléments dans ces briques hein, pour cette présentation, des éléments de contexte. On est dans un contexte de mutation et de pression dans le monde rural, des pressions urbaines face à la croissance démographique, des pressions aussi politiques depuis notamment la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis la reconstruction, la mise en place de la PAC qui a conduit les politiques à exiger aussi certaines mises en œuvre de la part notamment du monde agricole pour qu'il y ait en particulier plus de production, plus de productivité pour renourrir la population après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce contexte politique, eh bien, ce monde rural a subi d'autres pressions en plus des pressions démographiques. Donc c'est un monde rural qui est en mutation depuis la Deuxième Guerre mondiale, je viens de le dire, mais aussi accélération de ces mutations depuis les années 70 avec la périurbanisation et depuis les années 90 avec la fin de l'Uruguay Round et la création de l'OMC au niveau mondial, qui crée des nouvelles pressions sur l'agriculture puisque le marché agricole est de plus en plus libéralisé. De là viennent donc des mutations sociales, économiques, culturelles et politiques. On a vu récemment les affaires, le vote FN émerger plus que d'habitude dans le monde rural, qui amène évidemment des réactions, qui amène à dessiner, à militer, à dessiner et militer, en tous les cas, donc à dire quelque chose de particulier sur ce monde rural. Un militant, c'est quelqu'un qui lutte activement pour défendre une cause, une idée, et qui prône une action pour défendre cette cause. Donc l'action ici, ce serait peut-être le dessin. Mais quand même, quand je suis sortie un petit peu d'Étienne Davodeau, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut vraiment être militant pour mettre le monde rural en case? Est-ce qu'on peut dessiner le rural sans être militant? Et quand le monde de la BD parle du monde rural, est-ce que c'est nécessairement à des fins revendicatives? Donc c'est pour ça que j'ai essayé de poser un petit peu un point d'interrogation sur mon titre initial. Et pour comprendre ce que la BD a à dire du monde rural, à mon avis, il faut à la fois regarder comment la BD s'empare du monde rural, voire du monde agricole, quelles sont les formes, les objets, le ton, ce que cet art nous dit, nous apprend du monde rural, à la fois comme lecteur, comme géographe, et puis aussi comme urbain. Je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs, un grand lectorat urbain qui donc lit aussi ce texte sur le rural. Et puis aussi, je me suis demandé pourquoi la BD parlait du monde rural et quand est-ce qu'elle en parlait et quel message les auteurs souhaitaient faire passer. Pour travailler ça, donc, j'ai pris un corpus qui est très hétéroclite et qui est non exhaustif, Bon, j'essayais de mettre à peu près toutes les bandes dessinées que j'avais utilisées, qui étaient tirées de ma bibliothèque personnelle, tout simplement. Il y a à la fois des BD récentes, donc post 2000, et puis des BD classiques, hein, vous pouvez retrouver Spirou et Fantasio. Il y a à la fois des BD qui traitent du reportage, et puis des BD qui sont plutôt sur le mode humour. BD reportage, la dernière en date étant celle qui est parue dans la revue bande dessinée qui traitait du prix de la Terre, donc c'est un reportage de 5-6 pages. Mais on retrouvera aussi d'autres reportages sur mon oeuvre dans la revue 21, qui publie tous les mois un reportage BD. Et puis des BD françaises et des BD étrangères, j'ai notamment pris des BD qui traitaient du monde nord-américain, la BD sur Sorrow et la BD sur le magasin général de Loisel. J'ai fait un traitement assez inégal de ces BD. Le but à travers ce corpus était aussi de vous ramener à relire votre bibliothèque et à l'aune de ce thème de la ruralité. Et donc pour travailler, je vais d'abord essayer de regarder comment le monde rural est un décor ou un objet. Est-ce que tous les auteurs dessinent et disent la même chose du monde rural ? Ensuite, je vais essayer de constater que le monde rural est systématiquement dessiné en opposition à la ville et peut-être que ce n'est pas si innovant que ça à ce niveau-là. Enfin, pour terminer en montrant que le monde rural est surtout une métaphore pour parler d'un monde à défendre sur le plan économique, sur le plan écologique et puis sur le plan social. Alors, on peut partir tout d'abord de ce qui est représenté en bande dessinée. Donc, est-ce que ces représentations nous disent du monde rural ? Autrement dit, quels sont les géosymboles qui sont mis en case ? Je me suis intéressée en premier lieu au paysage, où on constate qu'il y a toujours des éléments récurrents qui nous disent « oui, on est dans le rural ». Parmi ces éléments récurrents, il y a des éléments de paysage naturel, en particulier les forêts. Donc là, on peut voir autour de la maison de Manu Larsonnet dans Le combat ordinaire, on voit ces espaces de forêt. Il y a un certain nombre d'autres vues dans la bande dessinée qui nous montrent ces paysages-là. Et le pendant de ces paysages naturels, ce sont aussi les exploitations qu'on retrouve là dans toutes les BD d'Avedo que j'imagine que vous avez en tête. C'était un peu difficile pour moi de... J'allais pas mettre toutes les cases auxquelles je pensais, donc j'ai fait juste une sélection très, très exhaustive. Donc, premièrement, ce sont ces éléments naturels, les forêts, les champs. Ensuite, on remarque la présence d'un habitat traditionnel, un habitat qui est généralement dispersé. Donc, des vieilles maisons. Ici, on a donc le vieux moulin du combat ordinaire, qui dit donc le moulin du vallon. Donc, des maisons en pierre, des maisons en tuiles. Puisque, aussi, les espaces qui sont représentés dans le monde rural sont en général des espaces assez reculés de l'espace français, du rural plutôt profond. Et en ce sens, la représentation qui domine dans les paysages, au-delà des forêts et des exploitations, c'est le village. Dès qu'il y a un village dans une BD, c'est que ça vous dit « on va parler dans le monde rural ». Et quand on voit les personnages se déplacer et passer dans la campagne, eh bien on va repérer systématiquement en fond, en horizon, une ligne d'église, une ligne de petit village qui vous indique que c'est ici. Donc là, j'ai pris l'exemple des mauvaises gens d'Étienne Davodeau, qui donc c'est le tout début de la BD. Donc la plupart des BD qui traitent du monde rural commencent par ça, une présentation des paysages. Et là, on voit bien, on suit les cartes, et puis on voit cette ligne de crête avec l'église, et puis peu à peu, on rentre dans le village qui va être la scène de l'intrigue. Le village, il est dès lors décor, mais il est aussi l'objet. Je crois que dans Magasin Général de Loisel, le but, c'est de montrer quelle est la vie de ce village au début à la fin du 20e, fin du 19e, début du 20e. Ce sont donc des éléments qui plantent le décor, mais ce sont aussi des éléments qui sont prétextes à la réflexion de l'auteur, que ce soit dans les BD récentes ou que ce soit dans les BD reportages. Ce qui est intéressant à partir de ce décor, c'est regarder les choix graphiques qui sont faits. Est-ce que c'est du noir et blanc ? Est-ce que c'est de la couleur ? Et souvent, donc là les BD d'Avodo le montrent bien, eh bien on reprend le noir et blanc pour traiter du monde rural, ou alors on reprend des couleurs uniformes pour traiter du monde rural. Et donc, ce monde rural, il est aussi généralement décor et symbole d'un monde ancien, d'un monde parfois immobile, qui néanmoins peut bouger, mais souvent en monochrome. Pardon. Donc dans Larsonnet, par exemple, on voit souvent quand il traite du monde rural, il peut passer du gris, donc plutôt en mode ancien, comme j'aime le dire, mais il passe aussi très fréquemment au rouge. Donc qui là décrivent plutôt les humeurs des personnages. Alors ces personnages, justement, ils sont aussi fondamentaux pour planter le décor. Ah oui, pardon. Dans ce décor, faudrait pas non plus juste penser qu'il y a uniquement les petits villages. Il faut pas oublier dans son monde rural et dans cet habitat dispersé les châteaux. Donc là, j'ai mis les exemples très canoniques de Moulinsart et puis de Champignac, château de Champignac dans Spirou et Fantasio. Donc c'est des BD classiques qui là se sont ont plutôt montré d'ailleurs les châteaux plutôt que les petits villages. Alors, donc les personnages sont fondamentaux dans les bandes dessinées. Les personnages, eh bien, ce sont des hommes et puis ce sont des bêtes. Ah, évidemment, j'ai avancé ma BD. Bon, donc le titre, c'était « Des hommes et des bêtes ». Pourquoi des hommes ? Parce que le monde rural qui est mis en BD est essentiellement masculin. En fait, il y a assez peu de femmes héroïnes dans le monde rural. Vous regardez les dernières BD de Davodo, bon, il n'y a pas énormément de femmes à part les femmes d'agriculteurs qu'on voit de temps en temps apparaître. Regardez aussi Aimer la Capelle de Jean-Yves Ferry, donc une BD plutôt humoristique. On voit là aussi le rôle de l'homme dans cette BD. Mais ces personnages masculins, ils sont aussi surtout accompagnés d'animaux qui plantent aussi le décor de la ferme. Donc les animaux... bon, tant pis, je ne vais pas redécaler mes BD. Donc, mais dans la BD, le manga, par exemple, japonais, qui s'appelle Cuillère d'argent, comment on dit en anglais déjà ? Silver Spoon, c'est ça. Dans le manga japonais, en fait, les premières pages du manga, donc on lit à l'envers, s'ouvrent sur le héros qui se fait lécher par un veau et qui part, qui s'énerve un petit peu parce qu'en fait il connaît pas très bien le monde agricole, donc il part à la poursuite du veau, et puis à ce moment-là il y a une collégienne qui l'accompagne et qui là arrive à cheval, et donc c'est la confrontation entre l'homme, la femme, et puis le cheval et puis la vache. Autre personnage important au-delà des animaux, donc là ici on voyait le chat, eh bien les familles, les couples. La famille, notamment les parents des agriculteurs, jouent systématiquement un rôle. Et puis, il y a aussi d'autres personnages importants, donc là, qui est derrière ça, mais que je l'avais posé, qui sont les personnes locales, les figures locales. Que ce soit le curé dans Magasin Général, que ce soit le maire dans Le Retour à la Terre, ou que ce soit aussi des collectivités locales qui jouent un rôle, comme la jeunesse catholique dans Les Mauvaises Gens. Donc ces figures locales, elles sont mises en avant pour nous dire que c'est avant tout la vie des gens plus que du paysage rural qui est racontée. Dans ce monde rural, ce qui importe aussi, ce sont les activités, et celles qui sont le plus représentées, eh bien, c'est le monde agricole qui domine. Donc là, la figure qui est tout le temps mise en avant, donc je vous disais tout à l'heure pour le village, c'est l'église, et là, c'est le tracteur. Donc dès qu'il y a un thème agricole, il y a un tracteur. Si vous reprenez la BD qui traite de taureaux, et bien dans ce cas c'est la charrue, mais qui va aussi occuper systématiquement une très grande page à un moment donné dans la BD. Et dans ce monde agricole, il est aussi représenté par les animaux, encore une fois, par le rôle que peut jouer l'élevage. Donc là vous pouvez reprendre rural avec les vaches. Et ce monde agricole, il est aussi présent à travers la transformation agricole. Donc là vous pouvez prendre une BD classique comme Les Maîtres de l'Orge, qui raconte la famille, une très longue famille, d'une famille de brasseurs, la très longue vie d'une famille de brasseurs, et où on revoit là toute la transformation et le processus pour fabriquer la bière. Alors ces activités, donc vous avez vu à travers les différents exemples que j'ai pris, même si je les ai décrits rapidement, eh bien ils montrent des variations suivant les époques, et donc à travers ces activités, eh bien les auteurs visent aussi à montrer l'évolution du monde rural, un monde rural en transformation, et peut-être un monde rural qui va vers la crise ou vers des évolutions nouvelles, comme le passage, par exemple, en bio. Donc, au final, eh bien, il y a des places différentes qui sont accordées au monde rural. Quand le monde rural est un décor, eh bien, ça peut être tout simplement un prétexte, au sens où le scénario, en fait, n'a pas grand-chose avec la campagne. Donc là, vous pouvez prendre Francis Blaireau-Farceur. Donc, Francis Blaireau-Farceur, toutes les bulles commencent par Francis se promène dans la campagne, hop, où le petit blaireau saute. Mais derrière, à part le fait que tous ses copains sont des animaux, donc que ce soit Lucien le lapin ou sa femme qui a un blaireau ou les petits cochons qui sont avec lui, bon, ça n'a rien à voir avec la campagne, quoi. Il se passe pas le scénario n'a rien à voir avec ça. Le décor est là aussi pour planter un environnement où aura lieu le scénario. Donc là, ce n'est pas l'objet de la BD, mais c'est plutôt les lieux où ces choses, où les choses se passent pour nous mettre en avant les gens. Donc là, c'est typiquement dans le cas de Magasin Général, mais c'est aussi le cas de La Communauté, donc qui traite de la vie en un essai de de vie en communauté dans les années, à la fin des années 60, au début des années 70. Et puis le décor, c'est aussi l'environnement, est aussi un, l'environnement rural est aussi un décor dans le cadre de la bande dessinée qui s'appelle Plogoff, qui traite des revendications, de, enfin, des luttes au moment de la centrale de Plogoff. Néanmoins, à travers ces exemples-là, vous voyez qu'il y a déjà un message qui est passé, ce qui nous amène à voir aussi la deuxième catégorie dans ce... dans ce, cette façon de voir le monde rural, c'est de voir le monde rural comme un objet. Et là, systématiquement, c'est quand même le monde agricole qui est mis en avant pour être défendu, mais aussi pour être transmis, montré. Et donc, il y a deux fonctions dans ces BD qui semblent émerger, une fonction de revendication, mais aussi une fonction didactique, pédagogique. Et là, il me semble que le dernier ouvrage de Davodo est particulièrement éclairant dans ce type-là. Dans ce type-là. Et donc le but, dans ce cas-là, c'est de décrypter les jeux d'acteurs, les luttes, les problèmes actuels, mais aussi de figer les luttes qui ont eu lieu à un temps T, de même que de contextualiser ces luttes qui ont eu lieu dans un contexte historique. Et là, il m'a semblé que le monde rural en BD, que ce soit dans la forme ou dans le fond, eh bien, il traitait d'une certaine façon d'une mémoire qui était mise en case, mémoire d'un temps éventuellement perdu. Néanmoins, ce temps perdu, donc c'est un temps qui évolue fortement, mais dans cette évolution, il y a une grosse récurrence qui est que ce monde rural, il est généralement... placé en opposition avec la ville. Et dans cette opposition entre rural et urbain, eh bien, le monde rural, il apparaît comme un monde malmené. Qu'il soit décor ou objet, les BD qui traitent du monde rural nous disent toujours quelque chose, avant tout, de la ville. Donc c'est un monde qui est pensé en miroir de la ville, hors de la ville, voire en opposition à la ville. Et là, il me semble que la question à poser, c'est de remarquer comment cette vision-là peut prendre le risque de devenir passéiste. Alors la ville est perçue avant tout comme une menace et on voit s'opposer des modes de vie mais aussi des modes de pensée. Donc là, il me semble qu'on peut prendre comme exemple le retour à la terre qui exprime très clairement comment le monde rural est regardé par la ville. Donc c'est Manuel Arsenet hein, qui s'installe dans un petit village, donc c'est un rurbain en fait, qui a une certaine vision des ruraux et des gens qui habitent cet espace-là, qui parfois tend à les montrer un petit peu comme des ploucs. On voit donc cette, cette vision caricaturale, évidemment, qu'on retrouverait également dans Aimer la Capelle, où là aussi la caricature est volontairement faite, mais qui montre ce monde rural comme arriéré, qui est resté sur des méthodes... collectives, etc., qui paraissent très étonnantes pour la ville. Mais la ville est aussi, à travers ces BD, regardée par le monde rural. Donc là, j'ai aussi filé l'exemple du retour à la terre, où on voit comment Madame Mortemont va à la ville, accompagne Manuel Arsenet à la ville, et avec ses pommes, et où elle se retrouve dans le métro, et on la voit bon, caricaturer la ville à travers tout son propos. Donc, bon, il y a plusieurs manières hein, de montrer ces oppositions-là de façon plus... Dans les BD qui traitent du temps plus ancien, cette caricature, en fait, elle tend aussi à montrer la ville comme un monde corrompu. Là, on peut reprendre le tome 4 du magasin Général où Marie, l'héroïne, va en ville. Et en fait, elle va en ville où elle se prostitue en ville. Et on retrouverait aussi cette vision de la ville comme monde corrompu à travers l'exemple de Taureau. Donc, ce qui là montrerait... enfin, reprendrait aussi à travers ces deux exemples-là la vision de l'Amérique du Nord de la bande dessinée où, bon, en Amérique du Nord il y a un historique quand même de cette vision du monde rural ou de ce qui est hors la ville qui est forcément un monde idéal enfin, dans la conception aussi des relations nature et ville pour aller assez vite. Alors cette opposition entre ville et campagne, elle mène à deux deux solutions pour les protagonistes. Soit on va vers une campagne qui devient une bulle refuge, soit on va vers une campagne qui devient une bulle comme la bulle d'un espace du conflit. Alors souvent, c'est le cas de Manu Arsenet dans Le Retour à la Terre, qui finalement s'enfuit de la ville, s'enfuit de Juvisy, même s'il entretient un rapport paradoxal avec Juvisy. Eh bien, dans ce cas-là, on sent une fuite des personnages de la ville, qui donc trouvent dans leur exil à la campagne du repos, mais aussi un moment pour réfléchir. Donc là, j'ai repris l'exemple du retour à la terre, ou à partir, du combat ordinaire, où à partir du moment où le héros Marco réfléchit sur lui, réfléchit sur ses crises d'angoisse, eh bien, on voit défiler durant des longues pages des arbres, des champs, juste des morceaux d'arbres au milieu, isolés au milieu de champs, ou juste des vues d'arbres vues d'en haut. Et c'est un moment où on sent que c'est un moment de refuge, de réflexion sur lui-même. On retrouverait ça aussi, évidemment, dans la biographie de Soro, qui montre comment il réfléchit à sa vision politique du monde dans cet espace rural, hors du monde, et même hors de la ville, et même hors du village, puisqu'il va construire sa cabane hors du village. Mais cette opposition, elle conduit aussi à des bulles de conflit. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Silver Spoon, là, le manga japonais, où on voit donc sur cette page-là tous les collégiens, les lycéens du lycée agricole dans lequel va étudier le héros. Et donc chacun de ces collégiens raconte sa vision du pourquoi il est dans ce collège. Et tous, en fait, ce sont des fils d'agriculteurs. Et le héros, en fait, il vient d'un collège très, très, très aisé. Et lui, il n'a aucune vocation agricole. Et tout ce qu'il veut, en fait, c'est être le meilleur dans ce collège-là. Et comme il pense que ça va être un endroit où il n'y aura que des ploucs, il pense que ce sera très facile pour lui d'avoir de très bonnes notes. Sauf qu'il se heurte, évidemment, à des personnes qui ont une autre expérience. Et cette opposition qu'on voit sur cet extrait que j'ai pris, eh bien, va conduire à des conflits entre les différents élèves du collège. Conflits qui s'expriment de manière beaucoup plus violente dans d'autres bandes dessinées. Et là, bon, j'ai montré de manière très forte l'image phare, à mes yeux, de la BD rurale de Davodo, où, malgré toutes les luttes qu'ont pu faire les agriculteurs du GAEC et puis le couple d'agriculteurs dont la maison en fait est sur le tracé de l'autoroute, eh bien on voit qu'ils ne résistent pas à cet envahissement de l'autoroute, et la maison qu'ils avaient pourtant mis des années à restaurer est détruite, et on voit cette image là qui occupe donc la moitié d'une page et qui clôt quasiment la BD et qui montre la fin du conflit politique qui se termine mal pour les agriculteurs. Alors, à travers ces exemples-là qui montraient ce conflit, il m'a semblé que les personnages qui reviennent le plus souvent dans ces moments de conflit, ce sont plutôt des jeunes, jeunes agriculteurs, c'est aussi vrai dans le Prix à la Terre, dans la revue bande dessinée, des jeunes aussi qui sont dans le monde collégien. Et donc, il y a une forme de malaise qui est exprimée à travers ces BD, qui en réalité exprime plus largement la crise dans laquelle est mis le monde agricole. Alors pour conclure sur ces oppositions, en fait j'ai pris un peu de recul en montrant que, en regardant que cette caricature entre monde rural et monde urbain, en réalité en géographie on l'a un petit peu dépassée, et donc il m'a semblé que là les auteurs de BD étaient un peu en retard, même s'ils vont volontairement, j'imagine, dans la caricature. Mais aujourd'hui, en géographie, on est davantage depuis même 30 ans, hein, plus dans les relations entre ville et campagne que dans les oppositions. Et donc, il m'a semblé que là, la bande dessinée ne montrait pas forcément des innovations. En particulier, je trouvais qu'il y avait des grands absents dans ces bandes dessinées, notamment le périurbain, qui n'est pas du tout mis en BD. Il faudrait aller dans le monde anglo-saxon pour en trouver, notamment dans la bande dessinée Ice Haven, où on voit là ces immenses zones résidentielles dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose, qui là, bon, sont mises en BD, mais en France, il n'y a aucune BD qui traite du monde périurbain. Et puis, cette caricature, elle tend finalement à montrer le monde rural comme le reste, les vestiges d'un monde perdu, qui est regardé avec regret et nostalgie. Bon, néanmoins, la BD, à travers cette caricature, elle cherche à expliquer comment a fonctionné ce monde rural, elle cherche aussi à dénoncer. et elle montre finalement un monde rural qui est peut-être un monde qui est oublié des politiques, et en ce sens-là, c'est un moyen pour les auteurs de défendre ce monde qui peut être considéré au contraire comme plutôt comme vivant. Donc derrière la défense du monde rural, quelles idées sont défendues par les auteurs ? Donc il y a à mon avis trois idées principales, je viens de me rendre compte en les énonçant tout à l'heure, ça reprenait les piliers du développement durable, je ne m'étais pas trop rendu compte en préparant. Donc une vision tout d'abord très écologiquement correcte. Le monde rural est dessiné à travers ses innovations agricoles. Et là, ce qui est mis en avant, notamment dans les BD de Davodo, c'est le bio, que vous voyez ici à travers la bande dessinée les Ignorants. Mais au-delà du bio, ce sont aussi des pratiques plus respectueuses de l'environnement qui sont mises en avant. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que souvent... Enfin, dans certaines BD, ce sont finalement les urbains qui viennent à la rescousse de cet écologiquement correct. Dans Le Retour à la Terre, on voit par exemple une scène entre Manu et puis Marco, Monsieur Henri, donc où Monsieur Henri est en train de dépendre des tas de pesticides sur son champ, et donc c'est Manu qui va le voir pour lui dire que peut-être qu'il pourrait planter des radis autrement. Dans la communauté, on voit bien aussi que ce sont les urbains qui vont s'installer à la campagne pour essayer d'installer, de montrer qu'un autre monde est possible aussi sur le plan écologique. Donc il y a une vision assez militante évidemment dans cette écologiquement correcte. C'est aussi une vision politiquement correcte qui défend le monde rural face à des politiques qui lui sont généralement défavorables. Donc les agriculteurs qui sont mis en scène, généralement ce ne sont pas des grands céréaliers de la Beauce, hein. Généralement ce sont plutôt des petits agriculteurs de l'agriculture paysanne, et c'est l'un des points communs de la bande dessinée. Et on voit clairement dans le reportage de la revue Bande dessinée comment est illustrée la difficulté d'accès des jeunes à la terre, au foncier, et donc les éléments politiques qui pourraient être mis en place, mais qui ne suffisent pas pour favoriser l'accès au foncier des jeunes. Enfin, le monde rural, qui est mis en BD, il illustre une défense, surtout à mon avis, du lien social, qui aurait été un lien social qui était perdu en ville. Selon des gradients différents, alors le summum, c'est la communauté, c'est aussi les mauvaises gens, où on voit une vision très idéaliste du monde rural, où le lien social est ce qui fonde précisément le fonctionnement de cet espace. Une vision qui est aussi, que ce soit le fonctionnement de cet espace pour lui-même, mais aussi le fonctionnement de cet espace par rapport à l'envahisseur. Donc ça, c'est le cas dans Plogoff. Et puis, dans un gradient un peu moindre, c'est tout simplement un monde d'entraide et de solidarité qui est mis en bulle. Donc André des solidarités qui peuvent parfois être caricaturées négativement, où on voit donc là Madame Mortemont qui vient regarder tous les potins qui se passent dans le monde rural. L'entraide et la solidarité, elle est très présente aussi dans la BD du magasin général. Donc on voit dans ces bandes dessinées, néanmoins au niveau du monde politique, eh bien il y a quand même des frictions qui sont notées. On le voit bien dans la communauté, on voit les distorsions qui pouvaient exister au sein de la communauté et au sein des différents villages qui sont décrits. Donc c'est pas non plus un monde idéaliste systématiquement, mais néanmoins les auteurs cherchent à montrer que dans ces espaces-là, eh bien il y a des relations qui existent encore et qui n'ont pas été perdues ailleurs. Et d'autre part, dans ces espaces-là, eh bien ça peut être des laboratoires de nouvelles relations. Et c'est là où le monde rural devient là encore un espace de l'apprentissage. Donc pour conclure, les auteurs de bandes dessinées, donc à mes yeux, en fait, ils ne sont pas toujours militants, ou alors ils sont indirectement militants. Et le décor du monde rural, il sert pour des intrigues qui, en fait, sont très variées. Ce sont plutôt, en fait, les auteurs récents qui font passer un message quand ils parlent du rural. Et là, on voit vraiment cet effet du contexte tournant des années 90, où on voit la remontée de l'agriculture paysanne, la remontée des critiques qui ont pu être faites à toute l'agriculture productiviste. Et c'est notamment dans ce moment-là que le monde rural mis en BD devient militant en questionnant tout ce qui avait été fait auparavant dans ce monde dans ce monde agricole, d'ailleurs plus que dans le monde rural. Ces auteurs de BD et ces propos-là, il faudrait les remettre en relation avec d'autres arts. Il faudrait regarder notamment Depardon, qui lui a davantage une approche peut-être descriptive, mais derrière cette approche descriptive a également une approche militante. Rapprocher aussi d'autres arts qui n'en est pas un, mais on pourrait rapprocher certaines BD de la vision caricaturale qui peut être faite du monde rural ou du monde agricole, dans L'amour est dans le pré par exemple, qui est aussi une façon de se moquer des urbains. Alors ce qui reste à dessiner en bande dessinée, à mon avis, ce serait le périurbain. Donc je vous laisse à vos plumes pour avancer sur cet espace qui n'a pas encore été travaillé, à moins que je m'y mette moi-même dans des recherches proches. Merci beaucoup.
Alors, vu qu'on a commencé en retard, je vous propose d'enchaîner avec l'intervention de Paul. Ah oui, non, tu. Enfin, donc non, on va faire les questions maintenant.
C'est pas obligé qu'il y ait des questions, mais.
Non, on va faire les questions maintenant. Donc si je pensais faire un groupe.
Vous n'avez pas l'espace périurbain qui n'est pas représenté. Enfin, ouais, effectivement, c'est un espace qui est très important en France, mais de fait, bon, dans la BD, ce n'est pas, dans le cinéma, ce n'est peu, dans les mentalités.
Cinéma, c'est pas vrai. Hein. Aux États-Unis, notamment, il y a beaucoup de cinémas qui parlent de l'urban sprawl. Enfin, on peut reprendre Virgin Suicide, on peut reprendre American Beauty.
Mais dans la mentalité, dans le discours politique, comme dans la mentalité, c'est un espace qui est sous-représenté en général. Et dans la bande dessinée, ni plus ni moins, je pense. Bon. Mais donc, il y a un espace qui n'est pas représenté. La ville, elle, est omniprésente, avec soit des quartiers de banlieue caricaturés, soit des centres-villes historiques, etc. Et finalement, c'est logique parce que c'est un décor qui est le nôtre. Et est-ce que l'espace rural ne serait pas surreprésenté finalement? C'est-à-dire que c'est quand même très important dans la bande dessinée. Et est-ce qu'il ne serait pas surreprésenté par rapport à la réalité de ce que c'est? Soit d'un point de vue statistique, soit même d'un point de vue représentationnel en France. Quoi.
Alors, si on regarde en termes de superficie brute, ça paraît très logique qu'il y ait beaucoup plus de BD en fait sur le monde rural, puisque moi je trouve que la diversité du monde rural n'est absolument pas représentée dans les bandes dessinées. Et soit c'est un simple décor, et au final c'est toujours les mêmes décors hein, que j'ai cités, les champs, le petit village en fond, quand les personnages urbains se déplacent d'une ville à l'autre par exemple, où on voit leur voiture et puis derrière toujours le même fond. Et quand c'est pas un simple décor pour un déplacement, eh bien c'est toujours les mêmes types d'agriculture qui sont représentés. Et en fait, il manquerait des... Enfin, pourquoi ne pas faire une BD sur les grands agriculteurs céréaliers de la Beauce? Pourquoi ne pas faire une BD sur l'agriculture de moyenne montagne? Et pourquoi ne pas faire une BD aussi... Bon, ça, à Le Retour à la Terre, il exprimait un petit peu, mais sur les nouveaux liens qui peuvent exister entre les nouveaux arrivants et puis les anciens qui sont présents. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit surreprésenté par rapport à la ville. Notamment, l'objet rural en lui-même ou l'objet agricole en lui-même est quand même peu questionné, peu pris comme objet. Alors que je pense que pour la ville est davantage prise comme objet des bandes dessinées.
Oui. Moi, j'ai une question sur le périurbain. C'est simplement, pourquoi tu penses qu'il est sous-représenté? Est-ce que c'est parce que le monde agricole véhicule ses propres symboles? Le monde urbain véhicule ses propres symboles et idéaux, et du coup, il n'y a rien dans ce non-lieu, ou je ne sais pas quoi, mais pourquoi, à ton avis, il est sous-représenté de...
En fait, le périurbain, je crois que il souffre d'être dans un entre-deux, donc à la fois, on ne va pas en parler parce que c'est la ville, donc pourquoi parler des périphéries de la ville? Et puis à la fois, on ne va pas en parler parce que c'est aussi la périphérie en un sens du monde rural. Et puis le périurbain, c'est un espace qui est aussi pour lequel il y a énormément de représentations qui sont véhiculées. Et la seule image, l'image la plus récurrente qu'on en a, c'est le pavillon, le chien et puis le petit jardin, éventuellement la piscine si on est dans le sud. Mais c'est très caricatural. Et en fait, les recherches qui montrent la diversité du périurbain, elles sont très récentes. Et il faut s'y immerger assez longtemps pour voir cette diversité-là, que ce soit en termes d'architecture, mais que ce soit aussi en termes de pratique et d'appropriation différenciée du périurbain et aussi de niveaux sociaux du périurbain. Je crois que pour le moment, en fait, les représentations générale, reste trop enfermée dans cette vision du pavillonnaire chien-jardin et empêche de voir la diversité du périurbain. Donc peut-être qu'il y a vraiment, à mon avis, un objet à dessiner. Parlez-en à Davodo cet après-midi, parce que ça lui donnera des idées. Pas d'autres questions?
Non, merci Julie.
Je m'éclipse, je suis vraiment désolée.
Désolée que tu t'éclipses.
Profitez bien de la journée et des amitiés à Étienne Davodo.
Merci d'être